Le testament d'un excentrique, chapitre 15. La situation au 27 mai. On n'a pas oublié que, primitivement, suivant l'acte testamentaire de William J. Hyperbone, le nombre des joueurs du noble jeu des États-Unis d'Amérique avait été fixé à 6, élus par le sort. Ces 6, suivant les instructions de Maître Thornbrock, avait figuré dans le cortège funèbre autour du char de l'excentrique personnage. On n'a pas oublié non plus que lors de la séance du 15 avril, où le notaire donna lecture du dit testament dans la salle de l'auditorium, un codicille très inattendu fit intervenir un 7e partenaire, uniquement désigné par les initiales XKZ. Ce nouveau venu était-il sorti de l'urne comme les autres concurrents? Ou avait-il été imposé par la seule volonté du défunt? On ne savait. Quoi qu'il en soit, cette clause du codicille, si formelle, nul ne pouvait songer à l'éluder. Le sieur XKZ, l'homme masqué, jouissait des mêmes droits que les anciens 6, et s'il gagnait l'énorme héritage, personne ne serait fondé à lui en disputer la possession. C'est donc par application de cette clause que, le 13 courant, à 8h du matin, Maître Thornbrock avait procédé à un 7e tour de dés. Et, cela est rappelé pour mémoire, le nombre des points obtenus, 9 par 6 et 3, obligeait le sieur XKZ à se rendre au Visconsin. Or, si le partenaire inconnu n'était pas possédé de ce goût immodéré des voyages, de cet amour des déplacements qui dévorait le reporter de la tribune, s'il était réfractaire à toute passion locomotrice, il devait se déclarer satisfait. En quelques heures de chemin de fer, il atteindrait Milwaukee, et pour peu qu'elle y fût encore lorsqu'il y arriverait, Lissiwag devrait lui céder la place et recommencer la partie. Or, si l'homme masqué s'était hâté de gagner le Visconsin dès qu'il avait connu le résultat du 7e tirage, bien qu'il eût un laps de 15 jours pour s'y rendre, on l'ignorait. Tout d'abord, le public avait été très intrigué de l'introduction de ce nouveau personnage dans le match. Qui était-il? Chicagois, puisque le testateur n'avait admis que des Chicagois de naissance. Mais on n'en savait pas davantage, et la curiosité était d'autant plus vive. Aussi, le 13 de ce mois, jour du 7e tirage, y avait-il eu foule dans la gare, aux heures des trains de Chicago à Milwaukee? On espérait reconnaître cet XKZ à sa démarche, à son attitude, à quelque singularité, à quelque originalité. Complète déception, là. Rien que ces figures habituelles de voyageurs de toute situation sociale, que rien ne distingue du commun des mortels. Toutefois, au moment du départ, un brave homme fut pris pour l'homme masqué, et, très ahuri, devint l'objet d'une ovation qu'il ne méritait pas. Le lendemain, il vint encore un assez grand nombre de curieux. Moins le surlendemain, très peu les jours suivants, et on ne remarqua jamais personne qui eut l'air de concourir pour le grand prix du match Hyperbone. Ce qu'il y avait à faire, et ce que firent des gens appâtés par le côté mystérieux de cet XKZ, et désireux de risquer sur lui de grosses sommes, c'était d'interroger Maître Thornbrock à ce sujet. Aussi était-il accablé de questions sur ce personnage. « Vous devez savoir à quoi vous en tenir sur cette XKZ, » lui disait-on. « En aucune façon, » répondait-il. « Mais vous le connaissez ?»« Je ne le connais pas, et je le connaîtrai que je n'aurai probablement pas le droit de trahir son incognito. »« Mais vous devez savoir où il réside, s'il a son domicile à Chicago ou ailleurs, puisque vous lui avez envoyé le résultat du coup de dé. » Je ne lui ai rien envoyé. Ou il l'a appris par les journaux et les affiches, ou il l'a entendu proclamer dans la salle de l'auditorium. Mais il faudra bien que vous lui expédiez un télégramme pour l'informer du point qu'amèneront les dés au tirage du 27 de ce mois qui le concerne. Je le lui expédierai, sans aucun doute. Mais où? Où il sera, c'est-à-dire où il devra être, à Milwaukee, Wisconsin. Mais à quelle adresse? Poste restante, aux initiales XKZ. Mais s'il n'est pas là? S'il n'est pas là, tant pis pour lui, et il sera déchu de tout droit. On le voit, au mais des questionneurs, Maître Tom Bouac faisait toujours la même réponse. Il ne savait rien et ne pouvait rien dire. Il arriva donc que l'intérêt, si vivement excité d'abord par l'homme du codicille, finit par s'atténuer, et on laissa à l'avenir le soin d'établir l'identité de cet XKZ. Au total, s'il gagnait, s'il devenait l'unique héritier des millions de William J. Hyperbone, cela n'irait pas sans que son nom retentît dans les cinq parties du monde. Au contraire, s'il ne gagnait pas, importait-il de savoir s'il était vieux ou jeune, grand ou petit, gras ou maigre, blond ou brun, riche ou pauvre, et sous quelle appellation patronymique il avait été inscrit sur les registres de sa paroisse. En attendant, les péripéties du jeu étaient suivies avec une extrême attention dans le monde où l'on spécule, chez les coureurs de chance, les chasseurs d'aléas, les adorateurs du boom. Les bulletins financiers donnaient la situation jour par jour, comme ils publiaient les cours de la bourse. Non seulement à Chicago, qu'un chroniqueur baptisa « ville de Paris » et dans toutes les grandes villes de l'Union, mais dans les bourgades, jusque dans les plus petits villages, les joueurs s'engageaient avec un remarquable entrain. Les principales cités, New York, Boston, Philadelphie, Washington, Albany, Saint-Louis, Baltimore, Richmond, Charleston, Cincinnati, Détroit, Omaha, Denver, Salt Lake City, Savannah, Mobile, La Nouvelle-Orléans, San Francisco, Sacramento, possédaient des agents spéciales dont les affaires marchaient à merveille. On pensait que leur nombre doublerait, triplerait, quadruplerait, décuplerait au fur et à mesure des incidents provoqués par le caprice des dés, dont Max Real, Tom Crabbe, Herman Tidbury, Iris T. Kimball, Lissy Wag, Roger Wickand et XKZ seraient les bénéficiaires ou les victimes. De véritables marchés s'étaient fondés avec courtiers et cotes où se faisaient les demandes et les offres, où l'on vendait, où l'on achetait, à des taux variables, les chances de tel ou tel. Il va de soi que ce courant ne s'était pas uniquement canalisé aux États-Unis d'Amérique, il avait passé la frontière et se ramifiait à travers le Dominion, par Québec, Montréal, Toronto et autres villes importantes du Canada. Et aussi coulait-il vers le Mexique, vers les petits États baignés des eaux du Golfe. Puis il se déversait sur l'Amérique du Sud, la Colombie, le Venezuela, le Brésil, la République argentine, le Pérou, la Bolivie, le Chili. La fièvre du jeu finirait par devenir endémique dans tout le Nouveau Monde. D'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, en Asie, les Indes anglaises, la Chine et le Japon, en Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient déjà participé aux folies de ce match dans une proportion considérable. Décidément, si le défunt membre de l'excentrique club de Chicago n'avait pas fait grand bruit de son vivant, quel tapage il faisait après sa mort. Les honorables George B. Higginbotham et ses autres collègues ne pouvaient qu'être fiers d'être associés à tant de gloire posthume. Maintenant, à l'heure actuelle, quel était le favori sur ce turf d'un nouveau genre? S'il eût été difficile de se prononcer jusqu'ici, puisqu'on ne connaissait encore qu'un petit nombre de coups, il semblait bien cependant que le quatrième partenaire, Awiste Kimball, réunissait alors le plus de partisans. L'attention portait particulièrement sur sa personne. C'était de lui que les journaux parlaient surtout, car ils le suivaient pas à pas, tenus au courant par sa correspondance quotidienne. Max Real, avec la réserve dont il ne se départissait guère, Herman Tilbury, qui avait d'abord voyagé sous un faux nom, Lizzie Wagg, dont le départ avait été retardé jusqu'au dernier jour, ne pouvaient rivaliser dans le public avec le brillant et bruyant reporter de la Tribune. Il convient de noter toutefois que Tom Queb, très lancé par John Milner, attirait un grand nombre de parieurs. Il semblait naturel que cette énorme fortune allât à cet énorme brute. Le hasard se plaît à ces contrastes ou à ces assimilations, comme on voudra. Et s'il n'a pas d'habitude, du moins a-t-il des caprices dont on doit tenir compte. Quant au Commodore Hurricane, il avait tout d'abord été en hausse sur les marchés. Avec son point de 9 par 5 et 4 qui le transportait à la 53e case, quel magnifique début! Mais au second coup, envoyé à la 58e case en Californie et obligé de recommencer la partie, il avait perdu toute faveur. En outre, on savait qu'il avait fait naufrage près de Key West, que son débarquement s'était effectué dans des conditions déplorables, que le 23 dans la matinée, il n'avait pas encore repris connaissance. Serait-il jamais en état de se rendre à Death Valley? Et n'était-il pas deux fois mort comme homme et comme partenaire? Restait enfin XKZ, et il y avait déjà lieu de prévoir que les malins, les habiles, auxquels une disposition spéciale du cerveau permet de flairer les bons coups, finiraient par se porter sur lui. Qu'il fût délaissé en ce moment, c'est qu'on ignorait encore s'il était en route ou non pour le Wisconsin. Mais cette question ne tarderait pas à être résolue lorsqu'il se présenterait au post-office de Milwaukee afin de retirer son télégramme. Et ce jour n'était plus éloigné. On approchait du 27 mai, date de ce 14e tirage qui concernait l'homme masqué. Ce jour-là, après le coup de dé, Maître Thornbrock lui expédierait une dépêche au bureau de Milwaukee, où il devrait être de sa personne avant midi. On imagine aisément qu'il y aurait foule de curieux à ce bureau, avide de voir le monsieur aux initiales. Si on n'apprenait pas son nom, du moins observerait-on sa personne, et les instantanés auraient vite pris son image photographique que les journaux publieraient le jour même. Il est bon d'observer que William J. Hyperbone avait distribué les divers États de l'Union sur sa carte d'une façon purement arbitraire. En effet, ces États n'étaient placés ni dans l'ordre alphabétique, ni dans l'ordre géométrique. Ainsi, la Floride et la Géorgie, qui sont limitrophes, occupaient l'une la 28e case, l'autre la 53e. Ainsi, le Texas et South Carolina étaient numérotés 10e et 11e, bien qu'ils fussent séparés par une distance de 8 à 900 miles. De même pour tous les autres. Cette distribution ne semblait donc pas due à un choix raisonné, et peut-être même les places avaient-elles été tirées au sort par le testateur. Quoi qu'il en soit, c'était au Wisconsin que le mystérieux XKZ devait attendre la dépêche lui annonçant le résultat du second tirage. Or, comme Lizzie Wagg et Jovita Foley n'avaient pu être à Milwaukee que le 23 au matin, elles s'étaient hâtées d'en repartir immédiatement, afin de ne pas s'y rencontrer avec le septième partenaire lorsqu'il paraîtrait au bureau télégraphique de la ville. Enfin, ce 27 mai arriva. Et l'attention fut rappelée sur le personnage, qui, pour on ne sait quel motif, s'abstenait de révéler son nom au public. La foule se pressait donc ce jour-là, dans la salle de l'auditorium, et sans doute, l'affluence eût été considérable si des milliers de curieux n'avaient pris les trains du matin pour Milwaukee afin d'être présents au post-office pour y voir ce mystérieux XKZ. À 8 heures, solennel comme d'habitude, entouré des membres de l'excentrique club, Maître Thornbrock agita le cornet, fit rouler les dés sur la table, et au milieu du silence général, il proclama d'une voix sonore « 14e tirage, 7e partenaire, 10 par 4 et 6. Et voici quelles étaient les conséquences de ce coup. XKZ étant à la 26e case, Visconzin, les 10 points lui eussent envoyé à la 36e s'il n'avait dû être redoublé, puisque cette 36e case était occupée par l'Illinois. C'est donc à la 46e qu'il devrait se transporter en quittant le Visconzin. Or, sur la carte de William J. Hyperbone, le district de Columbia était affecté à cette case. En vérité, la fortune favorisait singulièrement cet énigmatique personnage. Au premier coup, un état limitrophe de l'Illinois. Au second coup, 3 états seulement à traverser, l'Indiana, l'Ohio et la Virginie occidentale, pour atteindre le district de Columbia, et Washington, sa capitale, qui est aussi la capitale des États-Unis d'Amérique. Quelle différence avec la plupart de ses concurrents, envoyés jusqu'à l'extrémité du territoire fédéral. Assurément, il n'y avait qu'à parier pour un pareil chanceux, s'il existait toutefois. Or, ce matin-là, à Milwaukee, il n'y eut plus à mettre son existence en doute. Un peu avant midi, aux abords et à l'intérieur du bureau de poste, les curieux ouvrirent leurs rangs pour livrer passage à un homme de moyenne taille, d'apparence vigoureuse, la barbe grisonnante, un binocle sur les yeux. Il était en costume de voyage et tenait une petite valise à la main. « Avez-vous une dépêche aux initiales XKZ ?» demande-t-il à l'employé. « La voici, lui est-il répondu. Alors, le 7e partenaire, car c'est bien lui, prend la dépêche, l'ouvre, la lit, la referme, la glisse dans son portefeuille, sans avoir montré aucun signe de satisfaction ou de mécontentement, et se retire en traversant la foule, émotionnée et silencieuse. « On l'a vu enfin, le 7e partenaire. Il existe. Ce n'est point un être de raison. Il appartient à l'humanité. Mais qui il est? Son nom, ses qualités, sa position sociale, on l'ignore. Arrivé sans bruit, il est reparti sans bruit. N'importe, puisqu'il s'est trouvé le jour dit à Milwaukee, il se trouva le jour dit à Washington. Est-il donc nécessaire de connaître son état civil? Non. Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il remplit intégralement les conditions inscrites au testament, puisqu'il a été désigné par le testateur lui-même. À quoi bon se démarcher pour en savoir davantage? Que les joueurs parient pour lui sans hésiter. Il peut devenir le grand favori, car à s'en rapporter à ses premiers coups, il semble que le dieu des bonnes chances va l'accompagner pendant le cours de ses voyages. En résumé, voici quelle était, à cette date du 27 mai, la situation de la partie. Max Real, le 15 mai, a quitté Fort Riley du Kansas pour se rendre à la 28e case, état du Wyoming. Tom Webb, le 17 mai, a quitté Austin du Texas pour se rendre à la 35e case, état de l'Ohio. Herman Tilbury, sa condamnation enfin purgée, le 19 mai, a quitté Calais du Maine pour se rendre à la 4e case, état de l'Utah. Arwiste Kimball, le 21 mai, a quitté Santa Fe de New Mexico pour se rendre à la 22e case, état de South Carolina. Lissy Wag, le 23 mai, a quitté Milwaukee du Wisconsin pour se rendre à la 38e case, état de Kentucky. Le Commodore Hurricane, s'il n'est point mort, et il est à souhaiter qu'il ne le soit pas, a reçu il y a 48 heures, le 25 mai, la dépêche qu'il est expédié à la 58e case, état de Californie, d'où il devra revenir à Chicago pour recommencer la partie. Enfin, XKZ, le 27 mai, vient d'être envoyé à la 46e case, district de Columbia. L'univers n'a plus qu'à attendre les incidents ultérieurs et les résultats des coups suivants qui doivent être tirés de 2 ans 2 jours. Une idée, lancée par la tribune, a obtenu un grand succès et elle est adoptée non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Puisque les partenaires sont au nombre de 7, pourquoi, ainsi que cela se fait pour les jockeys sur les champs de course, ne pas leur attribuer à chacun une couleur spéciale? Or, n'est-il pas indiqué de choisir les 7 couleurs primitives selon le rang qu'elles occupent dans l'arc-en-ciel? Ainsi, Max Real a-t-il le violet, Tom Queb l'indigo, Herman Tilbury le bleu, Awiste Kimball le vert, Lissy Wag le jaune, Roger Wickham l'orangé, XKZ le rouge. Et c'est chacun avec leur couleur que de petits drapeaux sont piqués quotidiennement à la place occupée par les partenaires du match Hyperbonne sur la carte du noble jeu des États-Unis d'Amérique.